Bonjour à toutes et à tous, et Shana Tova, comme on a l'habitude de souhaiter. Nous sommes dans cette période que nous prépare pour le jour de Kippour. Cette période, c'est une période de 10 jours, de 10 jours de pénitence, et qui commençait par Rosh Hashanah, il y a quelques jours, et qui nous mène vers Yom Kippour. Donc, en tout, ça fait 10 jours, parce que Yom Kippour, c'est le 10e jour du mois de Tishri, où Rosh Hashanah, qui était la tête de l'année, était le premier. Donc, alors, on a 10 jours, Rosh Hashanah d'un côté, Kippour d'un autre côté. Le jour de Kippour, c'est un jour connu, même en français, avec le nom, le jour de grand pardon. Il y a beaucoup qui se réveillent le jour de Kippour. Il y a même cette expression, un juif de Kippour. Il y a une blague qui dit comme ça qu'il y avait quelqu'un qui rentrait à la synagogue le jour de Kippour. Donc avant de rentrer à la synagogue le jour de Kippour, il a visité à droite et à gauche. Il était dans une église. Il a demandé aux gens, vous êtes fidèles, vous êtes croyants? Ils ont dit, bien sûr, sinon qu'est-ce qu'on fait là? Il était même dans un mosquée, il a demandé aux fidèles, est-ce qu'ils sont croyants? Bien sûr, et si on est là, ça veut dire qu'on est croyants. Et il est rentré le jour de Kippour dans une synagogue, il était derrière, il a vu du monde, il a demandé aux gens, vous êtes fidèles? Non. Vous êtes croyants? Non. Alors, qu'est-ce que vous faites là? Mais c'est Yom Kippour. Où est-ce que vous voulez qu'on soit? Ça, c'est une petite blague, une petite blague pour dire que c'est pas forcément qu'on est croyant visiblement. Même les gens qui se disent pas croyants, pas fidèles, pas pratiquants, et pourtant, ils sont très attachés. Donc, il y a quelque chose de mystérieux à ces jours de Kippour qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant et pourquoi ça réveille tant les gens qu'ils ne savent pas forcément la signification de Kippour, la signification intellectuelle. Ils se disent même qu'ils ne sont pas pratiquants, ils ne sont même pas croyants. Alors s'ils ne sont pas croyants, en fait, certains. Et s'ils ne sont pas croyants, alors qu'est-ce qu'ils font là? Mais c'est Kippour, ils ne comprennent pas votre question, mais... On ne comprend pas qu'est-ce que vous voulez, c'est Kippour, donc on est là. Mais si c'est Kippour, alors vous croyez à quelque chose. Donc ça, c'est un paradoxe qu'on trouve dans la communauté juive, qu'on ne se dit pas croyant, mais en vérité, on est très croyant. Ça veut dire que la croyance, ce n'est pas des explications, ce n'est pas des choses intellectuelles, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que l'aspect intellectuel, l'aspect même actif, l'aspect sentimental, c'est quelque chose de profond. Et c'est ça l'idée de Kippour. Kippour, c'est quelque chose qui dépasse tout. On est dans une période, comme on a dit tout à l'heure, une période de 10 jours où on rajoute un psaume dans la prière entre Ishtabar, ce que s'appelle Ishtabar et Otseror, en tout cas une partie de la prière, que là, on rajoute le psaume 130 de Tehilim, ou le chapitre 130 de Tehilim, où ça commence par Shir HaMa'alot Ma'amakim Kratich HaShem. Je t'appelle depuis une profondeur. La profondeur, une profondeur. La profondeur de qui? Alors, il ne manque qu'il y a 2 profondeurs. Ça veut dire que l'homme appelle depuis sa profondeur, mais il appelle la profondeur de Dieu. Il faut comprendre ça, mais en tout cas, on va parler de la profondeur de l'homme. C'est une période profonde. Dans la vie, il y a plusieurs choses. Parfois, on fait des actes. L'acte, il n'est pas forcément quelque chose de profond. On peut faire un acte sans remarquer qu'on a fait cet acte. On peut faire un acte sans être attaché à l'acte qu'on fait. On fait l'acte, mais on ne suit pas l'acte. On fait l'acte parce qu'on est obligé de le faire, mais ce n'est pas nous. Donc l'acte, ça ne montre pas forcément la profondeur de la personne. Par contre, quand on parle, On peut parler de quelque chose, mais ne pas croire à ce qu'on croit. Aujourd'hui, on dit hashtag, regardez la politique, regardez les différents discours des uns et des autres, les médias. On dit des choses, on fait des déclarations qu'on ne croit pas forcément à ce qu'on dit. Donc, alors, la parole, ça ne montre pas vraiment la pensée de l'homme. Ça peut être loin de là. Même la pensée de l'homme, il peut se tromper, il peut penser à une chose, mais en vérité, il est loin de ce. Il se trompe lui-même de ce qu'il pense. Il fait des allusions. Ça aussi, ça ne montre pas forcément la profondeur de l'homme. Même quelque chose qui est oui profond, que c'est le sentiment, quand quelqu'un qui parle, parle avec beaucoup de colère, ou bien avec beaucoup de sentiments d'amour, ou bien de contraire. Ça aussi, c'est déjà profond. Il le fait quand quelqu'un le fait avec sentiment, donc c'est beaucoup plus profond. Mais c'est possible que ce n'est pas la profondeur, parce que l'homme, il était en colère, et ensuite il s'est calme, et il regrette ce qu'il a dit, parce qu'il n'a pas pensé, parce que donc ça ne montre pas vraiment sa profondeur. L'intellect. Quand l'homme il a une idée intellectuelle, quand l'homme il a compris quelque chose, c'est sûr que c'est pas profond. Oui, c'est profond, relativement profond, parce que l'intellect est déjà beaucoup plus profond que les autres choses. Mais pourtant, le fait même qu'on peut changer, aujourd'hui je comprends comme ça, le lendemain je comprends le contraire, on voit beaucoup d'exemples comme ça. Si on parle de l'humain, c'est sûr que c'est comme ça. L'homme, il est convaincu aujourd'hui de telle idée et le lendemain, il est convaincu que le contraire est la réalité. Même dans l'étude talmudique, alors il y a beaucoup de changements parce que l'intellect, c'est quelque chose qui change. Aujourd'hui, je comprends comme ça. Le lendemain, on comprend le contraire. On dit au nom de Rashi, c'est celui qui a écrit beaucoup de choses et là, il a expliqué la Torah, en fait, il y a beaucoup de commentaires de la Torah, mais lui, il a choisi des explications les plus proches des textes, d'une part, et les plus simples. Donc, il nous a amené la Torah et aussi le Talmud d'une façon très accessible. Il nous a amené la Torah et le Talmud très accessible. Et pourtant, Rachid lui-même, comme ça, il raconte son petit-fils, que s'il avait le temps, il aurait rajouté, il aurait changé, il avait changé pas mal de choses par rapport à ce qu'elle a écrit. Pourquoi? Parce que l'intellect, c'est quelque chose qui vit. Et ce que j'ai compris hier, c'est pas forcément ce que je vais comprendre demain. Alors, c'est vrai que ça fait un grand interrogation. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est vrai, c'est pas vrai. Si aujourd'hui je comprends une chose et le lendemain je comprends le contraire, alors, bien, alors donc je peux jamais vivre dans la vérité. C'est une bonne question, on va pas parler de ça aujourd'hui, mais en tout cas, montrer que même quelque chose de profond, mais ce n'est pas la profondeur. Mais il y a quelque chose de profond, que c'est quelque chose qui vient de la profondeur de l'homme, parce que c'est lui-même, que ça dépasse l'intellect, ça dépasse les sentiments extérieurs, ça dépasse bien sûr les actes, la parole, c'est quelque chose de profond. Et cette profondeur, elle se trouve dans cette période entre Rosh Hashanah et Kippour. Et cette profondeur se révèle les jours de Kippour, où les gens, ils ne savent pas pourquoi, mais c'est leur réalité se trouve dans la synagogue, ou bien dans les différentes choses qu'on fait Kippour, parce que c'est notre réalité, c'est notre vérité, se trouve sans savoir pourquoi. Alors bien sûr que c'est bien et bon, mais puisqu'on est dans un monde matériel où il faut faire, où il faut comprendre, où il faut avoir des sentiments, alors ensuite il faut savoir matérialiser cette vérité de Kippour vers le jour de tous les jours. Mais en tout cas, il faut savoir qu'il y a une période dans l'année où notre vérité, elle sort, comme si parfois quelqu'un, il sent quelque chose qu'il ne sait pas d'où ça vient. Il sait, c'est son cœur, son intérieur lui dit qu'il faut faire quelque chose, il ne comprend pas. Ça pose un problème parce qu'il y a aussi des gens qui ont des sentiments, ils vont derrière sentiments, et ça, sentiments trompeuses, mais en même temps, il y a des sentiments intérieurs qui poussent à l'homme de faire quelque chose. Après, il comprend que c'est quelque chose de vrai qui lui a poussé à faire quelque chose. Et par rapport à ça, je vais justement raconter une histoire d'une fille qui était kidnappée, donc l'année dernière, le 7 octobre. Je ne me rappelle pas là son nom, mais elle raconte ça, son histoire. Elle raconte que peu de temps avant 7 octobre, quelques mois ou bien un mois, je ne me rappelle pas, elle s'est sentie très mal. En fait, ce n'est pas qu'elle était malade, mais elle avait des mauvais sentiments. Donc, elle allait voir, elle avait un sentiment qu'elle se trouve devant une situation très très grave, mais elle ne savait pas quoi. Donc, elle a imaginé qu'il s'agit d'une santé qui est très mauvaise. Elle allait vérifier sa santé. Il me semble que tout allait bien. Je ne me rappelle pas cette partie de l'histoire. En tout cas, elle a cherché sur Internet, elle a trouvé qu'il est marqué comme ça que. Il a marqué, il a cherché ce qu'ils appellent zgoulot, des bonnes actions qui peuvent sauver. Il y a des gens qui s'amusent avec ça. Donc, elle a trouvé qu'il a marqué que c'est lui qui dit le chapitre 27 de Tehilim. Ça, c'est une sorte une sorte, ça lui donne une sorte de liberté ou bien une sorte de délivrance. Donc, elle a commencé à dire, là-bas, il est marqué que c'est 30 jours. Je ne connais pas cette tradition, mais en tout cas, comme ça, elle raconte. Effectivement, elle a dit ce chapitre pendant 30 jours. Et finalement, elle commençait par cœur. Effectivement, elle a dit jour après jour que le 30e jour, c'était ce jour de Simchat Torah, ce jour de 7 octobre où elle a été kidnappée. Elle raconte qu'elle a continué à le dire. Et pendant toute cette période de là où elle était à Gaza, et finalement, elle est sortie avec une de fois où on a libéré des otages, donc elle était sortie, mais contrairement aux autres qui étaient avec elle, en tout cas, elle a senti que ce chapitre de Tehilim, que d'ailleurs nous on a l'habitude de le dire pendant le mois d'Elul, 30 jours d'ailleurs, et on continue jusqu'à la veille de Simchat Torah. C'est intéressant, on le dit de toute façon. Bien, donc alors elle avait un sentiment intérieur qu'elle ne savait pas qu'est-ce que c'est. Et finalement, elle a compris d'où ça vient ce sentiment et qu'effectivement, elle raconte, elle dit qu'elle pense, elle sent que c'est Tehilim, donc c'est psaume. Et ce sentiment l'a sauvée. En tout cas, ça, c'est des choses qu'on n'a pas une grande compréhension, mais on sait, chacun il sait, qu'il a quelque chose intérieur. Son intérieur se révèle beaucoup plus que les actes. L'intérieur est beaucoup plus profond que les actes, ou bien la parole, ou bien la pensée, ou même les sentiments, ou même l'homme qui est convaincu parce qu'il a compris quelque chose. Il y a quelque chose qui est encore plus profond. Et donc ça s'appelle en hébreu omek, ma'amakim, quelque chose de profond. Et on est dans une période très très profonde. Alors cette période profonde commence par Rosh Hashanah et on est dans cette période de 10 jours comme on a dit et ensuite on est Kippour. En vérité, il y a en tout 10 jours avec Rosh Hashanah et Kippour. Alors ça commence par Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, c'est un jour profond. Où est-ce qu'on sait que c'est un jour profond? Alors, chaque fois, dans chaque domaine, il y a la profondeur, et il y a l'extérieur. Ça dépend de ce qu'on prend. Sukkot aussi, c'est un jour très profond. Si on va étudier ce qui nous explique ce que c'est Sukkot, on va trouver une grande profondeur. Mais pourtant, on est plutôt attaché à l'extérieur, aux actes, qui est quelque part un porteur de quelque chose de profond, mais visiblement, c'est plutôt quelque chose superficiel ou bien quelque chose extérieur. Par contre, aussi, les autres jours, les autres choses qu'on fait dans notre vie, on les fait d'une façon assez extérieure, moins profond. Il y a une profondeur, on peut faire plus profond, moins profond, mais c'est plutôt superficiel. On fait parce qu'il faut faire, on comprend un petit peu, mais on le fait. Par contre, le jour de Kippour, et tout d'abord le jour de Rosh Hashanah, ça, son identité est liée avec la notion de la profondeur. Et c'est pour ça qu'on sonne le shofar. Le shofar, c'est quelque chose qui, visiblement, on voit rien de joli, on peut dire. C'est quelque chose qui révèle la profondeur. Quelqu'un qui crie de sa profondeur, ce peut pas, c'est pas forcément un cri négatif, ça peut être un cri positif. Parfois, on voit quelqu'un qui est émerveillé de voir quelqu'un qu'il n'a pas vu depuis un moment, donc il crie. Ça dépasse le sentiment, ça dépasse les paroles, ça dépasse tout, et c'est une notion de cri. Le cri, c'est quelque chose de profond. Et Rosh Hashanah aussi, c'est un jour profond. Surtout, ce que, selon ce qu'il a marqué dans la Chassidoute, c'est que c'est quel est le but de Rosh Hashanah. Et aussi que Rosh Hashanah, on a des pouvoirs, il a marqué comme ça, qu'on a des pouvoirs, si on peut dire, sur Dieu. Et il y a cette expression qu'il faut expliquer aussi, mais comme ça il est marqué, qu'on a le pouvoir, quelque part, de convaincre Dieu sur certaines choses, déjà une bonne année, mais aussi d'être le roi du monde. Alors ça, c'est une phrase difficile à comprendre, qu'est-ce que ça veut dire. C'est expliqué dans la Chassidoute, je ne vais pas rentrer dans ce domaine, mais ça montre que c'est un jour profond. Et même si on a dit que toute chose, il a une profondeur, il a une partie extérieure qui est moins profonde visiblement, et nous, on est plutôt, on s'occupe des choses extérieures, on est plutôt des gens des actes, on fait des actes, et on s'occupe moins de la profondeur, même si on a quelques gouttes de la profondeur par-ci et par-là, mais on est plutôt extérieur. Mais il y a des périodes où c'est plutôt profond et les actes sont, accompagnent la profondeur. Donc le jour de Rosh Hashanah, comme on a dit, c'est un jour profond. C'est un jour où ça révèle quelque chose de profond et ça révèle aussi le pouvoir de l'homme à faire et ce que l'homme il est capable de faire. Donc ça, c'est l'idée de Rosh Hashanah. C'est pour ça que Rosh Hashanah on prie et c'est pour ça que Rosh Hashanah on fait des actes. Parce que c'est le jour où on révèle, Dieu il donne le pouvoir à l'homme, il révèle le pouvoir de l'homme de pouvoir faire de grandes choses. Parce que l'homme, ce n'est pas seulement quelqu'un comme on a l'impression de le voir, mais c'est quelqu'un de profond qu'il arrive à toucher la profondeur. Donc c'est Rosh Hashanah, c'est un jour profond où on a arrive à toucher les profondeurs de Dieu, d'une part. Kippour, comme on a dit tout à l'heure, c'est aussi un jour de profond. Kippour, comme on a dit avec cette image, que parfois, il y a beaucoup de juifs qui viennent à la synagogue sans savoir exactement pourquoi. Et pourtant, je ne me sens pas, et pourtant, je ne le fais pas, et pourtant, je ne pratique pas. Mais Kippour, je suis là. Pourquoi? C'est comme ça. Donc, c'est parce qu'il y a quelque chose de profond chez nous, qui se révèle le jour de Kippour. Et même, il y a les gens qui pratiquent toute l'année, ils sont moins, en tout cas visiblement, on ne voit pas cette profondeur, parce qu'ils pensent qu'ils viennent parce qu'ils comprennent telle et telle chose. Donc, les gens qui, toute l'année, ils pratiquent moins, chez eux, la profondeur est beaucoup plus révélée. Mais en tout cas, chez tout le monde, finalement, c'est un jour profond où notre profondeur se révèle. Donc, comme on a dit, le jour de Rosh Hashanah est profond, les 2 jours de Rosh Hashanah sont profonds, le jour de Kippour est profond, et entre les deux, il y a ce qui s'appelle les 10 jours de Tshuva. Alors, même si il n'y a que 7 jours entre deux d'un côté et un de l'autre côté, entièrement, ils sont dix, et pourtant il a manqué les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour. Alors le rabbi explique que la tshuva qu'on fait, ça veut dire pendant cette période, on essaye de s'améliorer. Ça s'appelle tshuva, quelqu'un qui revient à sa source. Mais ce n'est pas l'essentiel de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah aussi, c'est une période où on essaye de s'améliorer. Et Kippour aussi, c'est une période où on essaye de s'améliorer. Mais ce n'est pas l'essentiel ni de Rosh Hashanah ni de Kippour. Rosh Hashanah, comme on a dit, c'est le jour de pouvoir, que Dieu il donne à l'homme le pouvoir. Kippour, c'est le jour où il arrive à dépasser tous les fautes et monter à s'attacher à sa profondeur. Mais puisque le but de notre monde, c'est de faire des actes, et de ne pas rester quelque part des anges, mais faire des actes, ne pas rester avec cette profondeur, mais réparer le manque au niveau actif, au niveau intellectuel, au niveau sentimental. Donc, réparer ce qui ne va pas, même ceux qui ne sont pas liés avec la profondeur. Donc, c'est pour ça qu'entre les deux notions, Rosh Hashanah d'un côté et Kippour d'un autre côté, il y a 10 jours que c'est compris aussi Rosh Hashanah et Kippour, parce que c'est aussi, ils font partie aussi des 10 jours de repentance, ces 10 jours où on répare, on se rattrape. Alors c'est pour ça que ça s'appelle 10 jours de Teshuvah. Alors, donc c'est pendant ces 10 jours, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de, chacun il fait ses calculs, on essaye de refaire, de se perfectionner, faire mieux les choses, etc. Alors, comme on a dit tout à l'heure, que d'une part, c'est des jours où notre lien avec Dieu est très profond, que ce lien, il ne dépend pas des actes qu'on fait. Parce que de toute façon, le lien est profond, comme un père et son fils, que le lien entre père et fils n'est pas lié avec les actes, mais ils sont liés avec leur lien profond, et pourtant, il faut quand même que le lien soit aussi logique. Et c'est pour ça que pendant cette période, on est en train de réparer ce qu'il faut réparer pour commencer à avoir une bonne et douce année. Donc, c'est le moment de souhaiter une très bonne et douce année à chacun. Maintenant, il y a, pendant cette période, oui, je vais juste rajouter quelque chose, comme on a dit tout à l'heure, Rosh Hashanah, c'est un jour où le shofar représente la profondeur. Kippour, c'est un jour où on a surtout des actes négatifs à ne pas faire. Et ça, on est tous pareils. Ça veut dire que dans les actes positifs qu'on fait, alors il y a une différence entre l'un et l'autre. Là, il fait mieux, l'autre, il fait encore mieux, etc. Par contre, quand il s'agit de quelque chose à ne pas faire, on est tous pareils. Le jour de Kippour, on ne mange pas, et ça, on fait tous pareil. Quand il s'agit de la prière, alors là, il fait mieux, et là, il fait peut-être d'une manière différente, mais ce n'est pas l'essentiel de Kippour. L'essentiel de Kippour, c'est les choses négatives qu'on ne fait pas, comme le fait qu'on ne mange pas, et là, on est tous pareil. Et quand quelqu'un ne mange pas, ça touche son intérieur, donc le fait de ne pas manger, c'est quelque part, c'est une réception, un réceptacle pour la profondeur. Et comme on a dit, mais entre les deux, on essaye d'arranger l'acte qu'on fait jour après jour pour être mieux. Et là, c'est quelque chose d'intéressant que le chassidut développe, et le rabbi développe beaucoup, surtout dans les ma'amarim, ce qu'il s'appelle ma'amarim, les paroles chassidiques, de Shabbat Tshuva, de Shabbat on Rosh Hashanah et Kippour, que là-bas il y a une phrase qui dit comme ça, Shuva Israël ad Hashem Elokecha. Retourne Israël jusqu'à Hashem ton Dieu. C'est une phrase un petit peu difficile à comprendre. Alors on explique comme ça, c'est très intéressant comment le rabbi l'a expliqué, ça en gens il y avait une réunion des gens qui aident le mouvement Lubavitch, des gens riches, il a expliqué à leur niveau. Alors il a dit comme ça, normalement dans le judaïsme, si on parle de Dieu, on ne peut pas conjuguer Dieu. On ne peut pas dire normalement mon Dieu, ton Dieu. Comme si quelqu'un il va dire mon soleil, ma lune, mon étoile. Ce n'est pas quelque chose à ma mesure, donc je ne peux pas lier avec moi, ce n'est pas mon Dieu. Et pourtant les gens ils disent mon Dieu. Et dans la langue hébraïque aussi, il y a plusieurs noms de Dieu, mais il y a un qu'on peut conjuguer et dire « mon Dieu ». C'est le nom Elohim. Elohim, on dit « Elokeinu, Elokecha, Elokechem ». Pourquoi? Parce qu'en vérité, Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre. Même si que l'homme il a le devoir de comprendre, dans la chassidut, on explique pas mal Mais cette compréhension nous amène à comprendre comment on ne comprend pas. Mais ça, c'est un sujet à part. Mais, donc, alors finalement, plus qu'on s'approche de Dieu, plus qu'on s'éloigne de lui, plus qu'on comprend comment il est loi. Mais, quand même, on nous a donné la possibilité de s'attacher, d'être, qu'il y aura un lien qu'on puisse conjuguer et dire « mon Dieu, ton Dieu ». Et ça, c'est le nom d'Elohim, qui le nom d'Elohim, c'est plutôt un nom qui montre le rapport entre lui et nous. Les autres noms, ça montre comment il est dans un certain niveau. Mais Elohim, c'est plutôt la notion de quelque chose qui est proche de nous. Donc, on peut conjuguer et dire « mon Dieu est ton Dieu ». Et là, il est marqué que la tshuva, il faut faire tshuva, ça veut dire qu'il faut réparer ce qui ne va pas et même ce qui va pour aller plus loin, jusqu'à que Hachem Elokecha. Donc, il expliquait comme ça le nom d'Hachem, intégram, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais en tout cas, Yudke Vavke, c'est le nom qu'on ne peut pas utiliser la notion personnelle et dire mon Dieu, ton Dieu. Par contre, Elohim, on peut dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Pratiquement parlant, ça veut dire comme ça, qu'il y a des sujets dans la vie que je trouve goût, je l'aime. Il y a un sujet dans le judaïsme aussi que j'aime beaucoup. Il y a des gens qui aiment telle chose dans le judaïsme, il y a des gens qui aiment telle chose dans le judaïsme. Il y a des sujets qui restent loin de moi. Je l'aime pas, pas parce que je l'aime pas, mais je l'aime pas parce que je ne comprends pas. C'est loin de moi. Comme quelqu'un qui a pas de goût dans l'astronomie, ça lui dit rien. Il voit de l'astronomie, il a l'impression que c'est des points blancs dans un univers noir, ça lui dit rien. Et pourtant, il y a des gens qui s'intéressent beaucoup à l'astronomie et pour eux, c'est très intéressant. Et telle étoile, l'autre étoile, ça dépend de l'homme. Plus qu'on rentre dans ce monde, plus que ça devient intéressant. Moins qu'on rentre dans ce monde, alors parfois, moins c'est intéressant. Donc le judaïsme aussi, ça peut être quelque chose que certains regardent avec un œil un peu éloigné, on ne comprend pas. Mais il y a d'autres personnes qui ont tout leur plaisir là-dedans. Et plus qu'on pénètre, plus qu'on trouve de plaisir, à tel point que le plaisir est tellement énorme que ça peut être même dangereux. Comme c'est arrivé, quelqu'un qui rentre pénètre trop, et comme il est marqué sur les enfants d'Aaron, je ne vais pas rentrer là-dedans. Alors, ça veut dire que le judaïsme doit être, d'une part, elle peut être quelque chose qui est éloigné de nous, d'une autre part, elle peut être quelque chose de proche de nous. Et comme ça, on avance étape par étape. Ce qui était hier difficile pour moi devient aujourd'hui facile pour moi. Alors, comment je peux savoir que je réparais un problème? C'est lorsque hier, c'est pourquoi j'ai un problème. Parce que je n'ai pas de plaisir là-dedans, j'ai du mal à le faire. Oui, ça ne me dit rien. Après un certain travail, ça devient logique. Ou bien ça devient, je le fais avec sentiment, je le fais avec plaisir. Donc ça, c'est un exemple de quelque chose qu'on peut dire, on peut conjuguer, on peut dire c'est à moi. Hier, ce n'était pas moi, parce que je fais parce que je suis obligé. Je fais parce que, oui, je n'ai pas le choix. Ou bien, j'ai le choix, mais j'ai choisi de le faire. Mais je sais que la vérité, elle est là. Mais dans mon cœur, ou bien dans mes sentiments, je ne le sens pas. Ce n'est pas moi. Et après un certain temps, d'un coup, j'ai reçu un goût là-dedans. Je fais avec plaisir. Alors, à ce moment-là, on peut conjuguer, dire, c'est mon Dieu, c'est à moi. Donc, alors, c'est ça qui est marqué dans cette haftara. Shuva Israël ad Hashem Elokecha, c'est un conseil. À savoir que quand hier tu as fait quelque chose et donc et tu as fait avec un effort, d'un coup, comment tu peux savoir que c'est quelque chose que tu l'as réparé quand maintenant ça devient un plaisir pour toi. Donc, alors, ça, c'est une période où on essaye d'améliorer nos actes. Et on fait mieux de jour en jour. On avance doucement, mais on essaie de faire en sorte que le judaïsme soit un plaisir pour moi. Et même dans un point, là, dans ce domaine, hier, c'était difficile pour moi. Aujourd'hui, je le fais avec plaisir. Donc ça, c'est un exemple de cette période où on travaille sur nous-mêmes, étudier un petit peu plus, faire un petit peu plus. Et pour essayer de résumer ce qu'on vient de dire, Alors, on a dit que d'un jour, d'une part, Rosh Hashanah et Kippour, c'est une période, toute cette période, c'est une période profonde où les gens ils sont en attachement avec quelque chose qu'ils ne comprennent pas pourquoi. Mais on est très attaché à cette idée, à ce judaïsme. Mais d'une autre part, il ne faut pas rester là parce qu'on est plutôt superficiel, on est plutôt des gens des actes. Où on n'a pas toute l'année ce sentiment de profondeur. Parce qu'on est dans un monde assez superficiel. Il faut travailler avec ce monde. C'est pour ça qu'il faut avancer dans ce monde petit à petit avec des actes. Faire chaque jour mieux, même si qu'il nous manque la profondeur. Mais il y a plus un niveau de profondeur. Mais le fait même qu'après quelques fois que je fais quelque chose, je commence à avoir goût là-dedans, ça, c'est un niveau de profondeur qu'il faut faire pendant cette période. En tout cas, que le jour de Kippour, il nous dessine l'année, il destine l'année, il fait, grâce au travail de cette période, grâce au travail de Kippour en général, Rosh Hashanah et Kippour, on est en train de demander à Dieu à obtenir une bonne et douce année. Et cette année, surtout après une année aussi difficile, pour tout le monde, on demande à Dieu une bonne et douce année dans tous les domaines et une année de Mashiach. Merci pour votre écoute. Shana Tova ou Metuka.